Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble depuis ce gain Saint-Émilion. On sera évidemment du côté de Bordeaux, la fin des voyages de Thomas Jefferson, troisième président américain dans les vignobles, des nouvelles du projet étudiant Red Wine, RID, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur Invino Radio. TV. À mes côtés, ils sont quatre. Hélène Piau, Laure Gasparotto, David Cobol et Philippe Hormac. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve l'élégante Laure Gasparotto, journaliste au Monde, qui nous propose une petite balade dans le Roussillon à la rencontre d'un personnage.
Oui.
C'est bien ça.
Ça. Ça commence fort.
Ça commence fort. Mais en fait, je voulais que ce personnage vienne à nous, à Paris. Et c'est plutôt de lui à Paris que dont je vais parler.
Bah vous racontez ce que vous voulez, de toute façon. Je vous en prie.
En fait, donc, Hervé Bizol a créé son domaine, en effet, dans le Roussillon en 1997. Et maintenant,
le
Clos des Fées. Et c'est un homme extrêmement dynamique, qui a beaucoup d'imagination. Et il y a 5 ans, justement, il a créé un salon qui s'appelle Vinapogée pour dire que le vin était meilleur quand il était bu à son apogée que trop jeune. Et en effet, tous les salons, enfin, c'est pour nos auditeurs que là, je pense à eux, parce que souvent quand ils vont déguster dans des salons, ils dégustent les derniers millésimes. À 2018, même là, je commence à déguster déjà des 2019. C'est quand même pour moi très jeune, et souvent on passe à côté de la vraie valeur du vin, de la vraie identité, du vrai goût que le vin doit avoir.
Mais puis en plus, c'est très dur d'imaginer. Déjà pour les pros, c'est pas facile, mais pour les amateurs, c'est encore moins facile.
Voilà. Ouais. Alors, ce salon est ouvert au public et est ouvert juste le 20 janvier, là,
après-demain. Voilà, exactement, c'est même demain.
Ou même demain. Donc c'est au pavillon Kléber à Paris. Et là, on a une vingtaine de vignerons qui s'engagent donc à faire déguster leurs vins qui ont au moins 10 ans.
Et qu'on peut acheter.
Et qui sont donc commercialisés. Mmh. Et là, on se retrouve un peu comme si on était dans leur cave. Et il y a aussi tout un respect par rapport au vin qu'il n'y a pas forcément quand on est dans un salon des vignerons indépendants où il y a des centaines et des centaines de domaines présents. Là, il y a quelque chose d'assez intime qui se produit, et il y a une vraie relation qui se passe avec le vigneron. Donc ce sont des vins... Bon, qui a-t-on? Bon, il y a Hervé Bizol, bien sûr, qui fera aussi une conférence. D'autres vignerons comme Charles Philippona himself, qui parlera, il fera un atelier animé à midi.
Donc ça, c'est quelle maison?
Il fait du champagne. Voilà.
C'est du champagne Philippona. Donc on a un accord à Batucci, il y a le domaine de la Bégude, il y a Bollinger qui sera présent, le Chêne Bleu qui est dans le Ventoux et qui justement... Nicole Rollet qui fait de sa spécialité, hein, il ne commercialise pas ses vins avant au moins 6-7 ans. Mais là, donc, on ne dégustera que des vins qui ont au moins 10 ans. Il y a le château Franc-Maine à Saint-Émilion, le domaine Louis Jadot. Il y a même le château Sud-Huiro, le domaine du Vieux Télégraphe et l'Anségur, et j'en passe. Et donc, si vous voulez vous inscrire à ces ateliers dégustation, il faut s'inscrire sur Internet d'ici demain. Je vais y retrouver tout de suite. C'est le site www.vinapogée.com.
Vinapogée, ça s'écrit comment ?
VINAPOGE.com. Et là, donc, vous avez des ateliers dégustation où vous pouvez.
C'est payant, l'heure ou pas ?
Alors, pour les amateurs, c'est 30 euros l'entrée.
Pour la journée ?
Pour la journée.
Ce qui est assez cher quand même, hein, pour un salon. Mais voilà, par contre, au bout des vins exceptionnels.
C'est plutôt des vins très haut de gamme.
Oui,
ce sont des vins très haut de gamme. Ce sont des vins rares.
Et puis, c'est le coût de la conservation aussi, c'est ça.
Bien sûr.
Ils ont été gardés 10 ans, ça a un coût aussi.
C'est tout à fait légitime.
Et l'idée de ces vignerons, c'est qu'il vaut mieux prouver que promettre.
J'aime bien
cette idée. Parce que souvent, quand on achète un vin de 2017, on dit « vous verrez dans 10 ans », etc. Et puis moi, qui quand même fait ça. J'ouvre en ce moment pas mal de 2007.
Et vous pourriez avoir des déceptions.
Et parfois, j'ai des déceptions. Et là, au moins, le vigneron...
Il faut nous appeler dans ces cas-là, alors.
Donc, ce salon permet aussi de prendre conscience de sa propre cave. Si on a des vins d'un millésime qu'on est en train de goûter, on se dit, tiens, il faudrait peut-être que j'ouvre ces vins-là, ou alors peut-être les garder. Donc ça permet aussi d'avoir cette propre réflexion par rapport aux vins qu'on a déjà achetés. Et aussi par rapport à ceux qu'on a envie d'acquérir.
Est-ce c'est
qu'on
une très bonne initiative, tour de table, Hélène.
Ah ben je me dis que il vaut mieux prouver que promettre. Ça s'applique à plein de domaines. La prochaine fois que je rencontre un monsieur qui me plaît, je lui dis donc vous vaut mieux prouver que promettre.
Allez, hein. Action, parce qu'on verra plus tard. On verra plus tard. David Cobold, 18 sur 20 pour Hervé Bizel.
Absolument. D'autant plus qu'il fait lui-même de très bons vins et qu'il tient la route. Moi, j'ai pratiqué le
dans le temps, vous voulez dire.
Dans le temps, oui, absolument. Pendant les fêtes de fin d'année, j'ai goûté pas mal de vins de ma cave allant entre 82 et 2010.
Ah, quand même, oui.
82, parfois, ça a tenu, parfois, ça n'a pas tenu.
Oui.
Mais par contre, je dirais la fourchette entre 2001 et 2010, je n'avais que du bonheur.
Que du bonheur, quoi. Ah, mais 2001-2010, quoi. Mais alors, Philippe Forbach, est-ce qu'un vin, parce qu'il est vieux, il est forcément bon ?
Non. Non, bien sûr que non.
Parce qu'il y a des vins que vous conseillez de boire avant 5 ans ou 7 ans. Et ils n'ont pas là, pourquoi 10 ?
Dans les vins rouges, Il y a peu de risques aujourd'hui de les garder.
D'avoir une déception.
Oui, d'avoir une déception. Jusqu'à 5 ans d'âge,
sauf pour Pontécané 82, qui était absolument nul.
Bon, vous avez un nouveau copain sur Terre.
Ce n'est pas dans ces rien.
Et pour répondre à votre question, Alain,
donc, je l'avais bien gardé.
Tous les vins d'aujourd'hui se conservent correctement. 5 ans, ce n'est pas du tout une barrière infranchissable. Après, au-delà, ça commence à devenir un petit peu plus rare, un peu plus compliqué. Il faut déjà bien les conserver. C'est aussi un élément très important. Une bonne cave. Et ensuite, les aimer aussi, parce que le goût, certes, on aime bien les vins qui sont à leur apogée, mais l'apogée, elle est relative, elle est personnelle aussi, l'apogée. Des gens qui aiment leur apogée à 5 ans parce qu'ils ont encore du fruité, il y a encore de la force, il y a encore de l'alcool, etc. Puis il y a des gens qui l'aiment 15 ans parce que justement, ils sont dans le tertiaire.
Et ça dépend aussi de l'âge du consommateur, Philippe. C'est-à-dire qu'on réagit différemment à 25 ans qu'à 125 ans.
Oui,
qu'à
il peut y avoir des générations.
Ou la culture
et
aussi.
C'est culturel, je pense. Je pense que c'est culturel.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, justement, c'est que le dégustateur peut se renvoyer à sa propre histoire.
Oui.
En 2010, absolument. Qu'est-ce que je faisais ?
Bien sûr,
qu'est-ce que...
bien entendu.
Et donc, c'est intéressant aussi. Et c'est là, de toute façon, là, si un vin de 2010 vous plaît, vous pouvez l'acheter tout de suite. C'est ça qui est
et le boire tout de suite. Boire.
Et on aura aussi la preuve qu'un vin, qu'il n'y a pas que les vins rouges qui vieillissent, mais que les blancs peuvent vieillir
et les champagnes
très lumineuse.
Allez, c'est 100%.
Personne, 19
sur les rosés. Il y a la Bégude qui sera là, qui fait des rosés de garde.
À la Bégude, on est dans quelle région là ?
À Bandol.
Grande région aussi.
Les champagnes, personne ne pense à les garder longtemps, alors que c'est magnifique, bah, c'est ça, champagne.
Oui. On apprend plein de choses. Ok, c'est demain. Donc c'est demain à Paris pour tous les auditeurs d'une vidéo Sud Radio. Si vous voulez vous éclater avec modération et puis également découvrir plein de choses. À boire maintenant. Il faut y aller. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, un excellent sujet. Une vidéo Sud Radio retrouve à présent Philippe Forbach, un garçon formidable, exceptionnel, président de la Sommelier française, qui est parti à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux. Et puis, il a vu qui ? Puy Seguin et Saint-Émilion.
Exactement. Puy Seguin, Saint-Émilion. Une très jolie région, d'abord, classée à l'UNESCO depuis 1999.
Mais surtout. Puy Seguin ou Saint-Émilion ?
Non, Saint-Émilion. Mais il y a une émanation importante. Entre
on va finir à Saint-Émilion du côté de Dunkerque, dans quelques
Montagne,
années.
Montagne, Lussac, tout ça, c'est la bannière. Saint-Émilion. Et donc, voilà, même Pomerol en bénéficie aussi, parce qu'on est juste à quelques encablures de cette jolie cité. Et donc, il y a ce qu'on appelle des satellites, effectivement, à Saint-Émilion. Il faut dire que Saint-Émilion rayonne, donc les satellites sont présents. Et l'appellation Puy Seguin, c'est à peu près juste au nord, au nord-est, ça touche quasiment Saint-Émilion, sur la rive droite de la Dordogne. C'est une appellation qui couvre à peu près 730 hectares. Donc c'est une appellation plutôt petite pour le Bordelais, hein, et qui élabore que des vins rouges à partir du grand cépage local qui est le Merlot, qui est sur cette rive droite de la Dordogne, et le cépage principal. Et puis il y a bien sûr un peu de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon, même de Malbec, de petits verres d'eau, de Carménère. Enfin finalement ils ont droit à tous les cépages, mais le cépage principal, 80% de l'appellation, c'est du Merlot, donc des rouges uniquement. Il y a une centaine de producteurs au total qui font des vins qui ont, j'allais dire, un certain caractère. On n'a peut-être pas l'élégance de la plupart des vins de Saint-Émilion, même si à Saint-Émilion, il y a aussi une palette de styles assez, assez large, mais qui donnent des vins assez accessibles pour les consommateurs, à la fois en termes de prix, mais même en termes d'accessibilité. On évoquait le temps et un instant avec le très beau sujet de Laure Gasparotto, mais l'apogée d'un Puy Seguin est un peu plus rapide que celle de Saint-Émilion. même s'il y a peut-être moins de charbon au départ, ils se font quand même beaucoup plus vite que la plupart des crus ou des grands crus de Saint-Émilion. Ça donne concrètement des vins que l'on peut boire au bout de 4-5 ans.
4-5 ans, donc c'est bien
sans
ça.
Sans aucun problème. Ça peut dépendre aussi de la concentration du millésime. Hein. Et si les millésimes solaires qu'on a pu connaître ces dernières années, je pense...
Qu'est-ce que c'est qu'un millésime
2009,
solaire
2015,
par exemple. Il y a un rapport avec les Incas, qu'est-ce qu'il y avait là?
Et pourquoi pas 2018. Le millésime solaire, c'est-à-dire que c'est une année où les merlots frisaient plutôt les 15 degrés que les 12. Quoi.
Oui, d'accord. Oui.
Voilà.
Oui, ça c'est très solaire.
Et ce qui, effectivement, n'était pas si rare ces dernières années, et qui donne beaucoup plus de rondeur, de générosité, de suavité au vin, de puissance aussi, d'alcool, un peu plus important aussi, et qui favorise justement l'assouplissement, ou en tout cas la perception plus nuancée, j'allais dire, des tanins lorsque le vin est jeune. Parce que c'est vrai, pendant très longtemps, les vins de Bordeaux, ils étaient quand même très tanniques, un peu austères, voire un petit peu rustiques au départ. Et il fallait justement...
C'était une obligation quasiment les attendre, quoi.
Minimum, pour qu'ils puissent être un peu équilibrés. Aujourd'hui, l'œnologie est passée par là, l'évolution du climat, la compréhension aussi de la gestion des tanins qui sont moins extraits, plus infusés aujourd'hui, en termes de vinification, et qui permettent de conserver une concentration de tanins, mais avec moins d'extraction.
Et ça, Philippe, on l'a fait parce qu'on a amélioré la technique? Ou est-ce qu'on a changé les techniques, ou les deux?
Les deux. On peut considérer qu'on l'a amélioré, et automatiquement, on la change un peu. Et on la comprend, en tout cas, davantage. Et notamment, la gestion des tanins, c'est un des grands défis d'aujourd'hui. Il y a l'alcool et les tanins. C'est les deux éléments pour les vins rouges, notamment.
Je pense que c'est surtout la maîtrise du froid qui a fait la maîtrise des tanins.
Parce que
l'idée de l'infusion, c'est qu'on arrête la vinification un peu plus tôt qu'avant.
Exactement. C'est
la douceur de l'extraction, les techniques d'extraction beaucoup plus douces.
C'est vraiment grâce à l'arrivée du froid dans les caves.
Et donc, merci à la technologie, quoi, ça a pris.
Oui,
Ça
joue énormément. Juste pour revenir rapidement sur l'affaire, les Bourguignons ont tendance à faire infuser et les Bordelais extraire. Mmh. Finalement, ceux qui font aujourd'hui à Bordeaux ça, c'est qu'ils s'inspirent un peu de l'esprit de la vinification. Mmh. Alors, quelques bons vignerons, il y en a pas mal. Hein. Une centaine de châteaux, je disais. Le château L'Église, souvent un peu partout, mais là, celui-là est plutôt pas mal. Les Lorets. L'anglais, Branda.
Est-ce que l'église est au centre du village?
Non, mais par contre, l'anglais a été bouté en Angleterre.
Le château Rigaud ou encore le château Aubernat font partie des jolis vins de cette appellation.
Et le prix, Philippe, vous en avez parlé rapidement, là. C'est...
Oui,
c'est pas cher.
C'est relativement pas cher, c'est entre 12 et 20 euros à peu près.
Oui, on se régale, quoi.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant, bar à vin du caviste Nicolas. Avec quoi? Avec le Ville Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Aubrac et le Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe, vous le connaissez tous, mais chaque semaine on vous pose une question sur le vin et le gagnant gagne un beau cadeau. Cette semaine, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question du week-end, sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du château de Caraguille dans les Corbières? Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 999.
Voilà, c'est parti.
N'ayons pas peur, exactement.
Vous avez perdu. Joue, alors?
Et alors, pour gagner, je le souhaite, il faut répondre, bien entendu. Et bien répondre si possible. Et vous allez gagner le magazine Planète Vin Spiritueux. Vous vous rendez toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz et vous serez tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe. David Kebold, c'est à vous. Vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Vous avez un grand copain qui est mort depuis quelques temps. Il s'appelle Thomas Jefferson,
oui.
Troisième président américain.
Bonjour Tom.
Salut Tom.
Ouais. Alors Thomas Jefferson, c'était un pionnier des voyages, ou un des pionniers des voyages viticoles. On peut parler de l'œnotourisme quasi professionnel dans son cas. Il a 43 ans lorsqu'il réalise son premier voyage en France, 2 ans avant la Révolution française, c'est-à-dire en 1787. Donc je vais résumer ces deux voyages parce qu'il en a fait deux successivement. Il était en charge diplomate à la cour de France. Il était en charge des relations commerciaux. Donc c'était un peu l'OMS avant la lettre. Hein. Et puis il n'utilisait pas le réseau Twitter comme l'actuel président. Lui, il est devenu président un peu plus tard parce qu'il fut le troisième président après.
Et il bossait avec Washington.
Il a bossé avec Washington, qui était son copain. Il a co-rédigé la Déclaration de l'indépendance des États-Unis. Donc c'était quand même un homme considérable. Alors par ailleurs, il est passionné d'agriculture, de philosophie, de société et de la ruralité en général. aussi grand amateur de vin et vigneron dans son propre domaine de Monticello, qui se situe en Virginie, dès l'âge de 25 ans. Donc vraiment, il s'intéressait à fond au sujet. Donc son premier voyage, il est parti vers l'est de la France, la Bourgogne, la vallée du Rhône, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines en détail. Il est reparti en Italie, il est revenu par le sud de Languedoc, où il appréciait particulièrement les vins de Frontignan. Frontignan.
Il y avait déjà du muscat à l'époque
ou pas ? Il y avait déjà du muscat. Et il parle des différentes qualités. Et derrière, il compare la qualité des vins de muscat de Frontignan aux vins les plus chers de l'époque, qui étaient des vins de paille d'Alsace, qu'il considérait comme déplorablement mauvais pour leur prix.
Bon, donc il marchait pas. Dixit-moi, président.
Alors,
voilà,
il n'y a plus de vins de paille en Alsace aujourd'hui. Mais... il y en a un peu dans le Jura, mais bon. Alors, il a très bien préparé ses voyages. Il a établi même ses propres cartes viticoles sur la Bourgogne. Plus tard, à Bordeaux, en arrivant sur les quais, il fait des observations très intéressantes parce qu'en longeant les quais, il remarque les piles de planches d'ormeaux destinées à faire des barriques. Alors, l'ormeau a disparu et l'ormeau, ça fait longtemps qu'il n'est plus utilisé pour faire des barriques, mais c'est la preuve que toutes sortes de vins durs, de bois dur, pardon, étaient utilisés pour faire des barriques, pas que le chêne. Il fait son propre classement des crus de Bordeaux. Il classe par exemple à Bordeaux, qu'est-ce qu'il dit ? Les vins of the finest quality, c'est-à-dire la toute première qualité, Château Margaux, la Tour de Ségur, qui est l'ancien nom de l'époque de Château de la Tour, Aubryan et Lafitte. Mouton ne figurait
Monsieur
pas.
Monsieur avait du goût déjà. Hein?
Monsieur avait déjà du goût. Trompé. Et au fait, c'était bien avant le classement de 1855, c'était 70 ans avant. Donc déjà, ces noms-là émergeaient. Donc c'est un document historique. Il revient à Paris par le Val-de-Loire. L'année suivante, il repart cette fois-ci vers l'Est, le Nord et l'Est. Il va en Hollande. La Belgique n'existait pas à l'époque. Ce n'était pas un pays. Hein. C'est après le Napoléon, la Belgique. Et puis par l'Allemagne, où il goûte les vins de la Moselle, du Rheingau. Il revient par la Champagne. Il remarque très clairement sur le fait que en Champagne, on fait deux sortes de vins, des vins tranquilles qui sont aimés uniquement par les Français et les vins mousseux qui sont uniquement aimés par les Anglais et les Américains. Donc c'est la preuve que la bulle était quand même une invention anglaise.
Hein. Oh, vous la ramenez votre bulle, vous. Hein.
Non, alors. C'est absolument vrai, hein. Ça c'est un témoignage. Et puis il dit, en devenant le troisième président des États-Unis en 1801, il écrit en 1808, « Nous pourrons aux États-Unis... » élaborer une grande variété de vins tels qu'ils sont faits en Europe, pas exactement de la même sorte, mais sans doute aussi bonnes. Et quelque part, il était visionnaire. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est le quatrième pays producteur au monde.
Merci beaucoup, David Cobol. Une vidéo sur Radio. On retrouve Hélène Pio, chef de rubrique, toujours au magazine Régal, avec un jeune homme sympathique. Il s'appelle, se prénomme Louis Hébrac de La Perrière. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Alors, c'est quoi ce red wine, hein, ce red wine avec R-A-I-D et non pas R-E-D?
Alors, on était déjà passé pour présenter le projet. Ah oui. Donc, c'est un projet étudiant.
Il y a un an, c'est ça ?
C'était il y a pile un an, ouais. Et donc, le projet qu'on a monté avec deux autres amis a pour but de réaliser un documentaire sur les impacts du changement climatique dans les vignobles. Et donc, la première édition, c'était se passer en Amérique latine.
Hélène ?
Donc, effectivement, nos auditeurs très fidèles s'en souviennent. Nous avions reçu Vincent Couli l'année dernière. Et effectivement, à l'époque, il préparait ce voyage en Amérique du Sud. Donc, vous êtes parti avec lui, avec Vincent, et avec Adèle Baumier aussi, puisque vous êtes trois étudiants.
Trois ou quatre au total.
En fait, on est parti à trois au début et on a récupéré Sybille en cours de route au Chili.
Qu'est-ce qu'elle faisait aussi au Chili, alors ?
Alors, du coup, elle se spécialise dans le marketing du vin et elle faisait un stage en vinification.
Donc, trois garçons et une fille ?
Deux garçons, deux filles.
C'est parfait, la parité, bravo, bravo.
C'est ça. C'est,
on se trompe parfois.
Sybille est une fille, je vous le dis.
Allez-y, Hélène. Hélène Pio, allez-y. Oui.
Au moment où nous avions reçu Vincent Couli l'année dernière, vous étiez en train d'essayer de réunir un budget de 25 000 euros pour un projet de 6 mois. Vous l'avez fait ?
On l'a fait, on a même fait un peu plus, avec nos apports personnels, bien sûr. Le budget était estimé à 30 000 euros à peu près.
Ah ben c'est bien, bravo en tout cas. Et qui a sponsorisé, indépendant des parents ?
Alors, on est passé par des appels à projets donc qui sont émis par des universités, des fondations, donc notamment la Fondation Terroir qui est basée à Bordeaux. Je ne sais
D'accord.
pas si ça vous parle. Et ensuite, des partenaires, des professionnels du vin, donc via notamment Vincent qui a un domaine dans la Loire et qui nous a bien aidé là-dessus.
Ouais.
Et voilà, et du crowdfunding derrière.
Et donc, au total, vous êtes dans quelle école vous êtes tous les quatre ?
Alors, on est trois à être à AgroParisTech. Et Sybille qui est à Liézeg à La Défense.
D'accord.
Alors, Argentine, Chili, Uruguay, Brésil, Pérou, ça fait combien de kilomètres ?
Alors finalement, le parcours a un peu changé. Donc on a fait Argentine, Chili, Bolivie, Uruguay.
Et après, Seychelles, Bahamas, parce que oui, c'est chaud.
Oui, c'est sympa. Pourquoi le changement de programme ?
Changement de programme, alors parce que le Pérou, c'était un peu excentré et ça commençait à faire beaucoup sur 5 mois. Et ensuite, le Brésil, on a décidé de faire une croix dessus à cause de quelques mésaventures qu'on a eues pendant le parcours. Et qui du coup nous ont...
Qu'est-ce qui vous a piqué vos affaires ?
Alors on a eu une casse moteur, on s'est fait crocheter la voiture, donc voilà.
Ah oui.
Ça nous a fait perdre un peu de temps et on a préféré pas bâcler.
Ça s'est passé où pour qu'on évite ce lieu ?
La casse moteur, donc...
Non, ça, mais ça c'est indépendant.
Ça, c'est pas
non, c'était Chili. Chili, Santiago là.
Ah, ouais.
Ah ouais.
Ouais. Bon, c'est comme ça.
C'était déjà chaud à Santiago.
Nous, on est arrivé avant les manifestations, mais voilà, c'est faut faire attention. Et heureusement, on n'a pas perdu le matériel audiovisuel.
Bon, ça c'est important, quoi.
Alors, donc, voilà. Vous avez visité 74 domaines, réalisé 63 heures de films, goûté 435 vins et fait 113 interviews. Qu'est-ce que vous faites de tout ça maintenant ?
Oui.
Alors justement, ça demande beaucoup de travail. On est en plein dedans, donc on est sur la partie post-production du documentaire.
Parce que dérocher 63 heures de films, faut y aller, mon gars.
Ouais. Donc là, on est en train de créer un gros tableau Excel avec tous les rushs vidéo et pour derrière essayer de compiler et d'arranger toutes ces pistes pour créer un documentaire qui devrait faire. Environ une heure.
Une heure, quoi, 52 minutes, quoi. C'est...
Voilà.
Il sortira quand ?
Alors, il est prévu, on s'est fixé un objectif assez ambitieux, donc mi-février.
Ah oui. 2020.
Pour essayer de le présenter à un concours de cinéma, de documentaire sur le vin.
Ah, c'est bien, comment il s'appelle
C'est pas Euno Video, j'ai plus le nom en tête, mais on avait Euno Video, c'était un peu trop juste en termes de délai. Donc,
Mais vous pouvez le présenter l'année suivante, hein. C'est pas voilà. Ça, sympa, oui, perdu, quoi. Et l'accueil, alors, ils ont été sympas avec vous, là, quand ils ont vu les Frenchies débarquer ?
Ouais,
les vignerons ?
Super, super sympa, les gens sont très accueillants, enfin un peu partout dans le monde du vin.
On parle espagnol ?
Il y avait que moi qui parlais espagnol au début, donc ça m'a permis de me remettre dans le bain, mais les autres ont appris très
vite. Ils parlaient quoi ? Qu'anglais les autres, quoi ?
Ouais. Et là-bas, ça parle pas énormément anglais.
Non, donc, gringo. Perfecto, alors, Hélène.
Vous aviez aussi pour projet d'effectuer des missions sur le terrain pour le compte d'entreprises, études de terrain, rapports, etc. Vous avez été suivi ? Il y a des entreprises qui vous ont demandé, qui vous ont dit, bah, tiens, puisque tu vas là-bas, dis-moi si je pourrais vendre mon vin ou dis-moi, je ne sais pas.
Alors ça, dans l'idéal, c'est ce qu'on avait imaginé. Après, comme c'était la première année, on manquait encore un peu, on va dire, de visibilité et de crédibilité envers les partenaires. Donc on n'a pas réussi, mais du coup cette année le projet est repris par des étudiants de la promotion en dessous de la mienne.
Qui partent eux également 5 mois ?
Et qui partent 5 mois, un peu moins 4 mois, et qui font le tour de la Méditerranée et donc essayent de développer le projet et notamment le volet scientifique. Donc on a établi un partenariat avec l'INRA notamment.
Ah oui.
Et on va travailler en fait sur des bases de données. Mmh. Donc nous le but c'est de collecter des données sur le terrain et en même temps de partager ces bases de données pour la donner accès aux viticulteurs, aux œnologues et tout qu'on rencontrera.
Et votre meilleur souvenir et le pire c'était quoi ? On ne demandera pas le prénom du meilleur souvenir.
Ni le prénom du pire, c'est pas sympa.
Le meilleur souvenir en termes viticoles, je dirais que c'est un des vignobles qui m'a le plus marqué au Chili, donc tout au nord du Chili. C'est, on va dire, vraiment entre Santiago et le désert d'Atacama. Donc c'est une zone...
Limari, par là
Encore plus au nord, Elqui.
Elqui, oui.
Et donc c'est une zone qui est vraiment quasi... Enfin, c'est semi-aride, mais quasiment aride. Donc il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui pousse. On est dans les montagnes, dans des vallées hyper encaissées, et il y a des vignobles magnifiques là-bas, donc production de pisco, mais aussi des vins d'altitude.
Ah oui. Ça irrigue un peu là-haut ou pas ?
Ah bah ça irrigue nécessairement.
Pas que là-haut d'ailleurs.
Ouais, pas que là-haut.
Donc là, quand on parle de changement climatique...
Uruguay, on irrigue partout là-bas. Donc,
ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, merci Louis, merci Hélène, merci. Laure Gasparotto, Philippe Forbach et David Cobol. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook. Invino se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.
Invino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.